Au revoir, c'est tout.
Le Labo des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope, c'est tous les samedis à 13h sur Radio G 101.5 FM. Chroniques, reportages, interviews, expériences radiophoniques. Et retrouvez toutes les émissions en podcast sur le site internet labodessavoirs.fr. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
Qu'on le veuille ou non, la science est partout. Elle est dans notre quotidien et participe aux évolutions de notre société. Pourtant, on entend encore des personnes dire que les sciences, ce n'est pas pour elles ou pour eux. Mais la transmission des sciences peut prendre de nombreuses formes sans même parfois qu'on se rende compte qu'on est au contact des savoirs scientifiques. Alors, peut-on vraiment parler science sans parler de science ? Une question qui peut nous sembler provocatrice, mais totalement dans le thème des Utopiales 2023, le Festival international de la science-fiction, qui a lieu une nouvelle fois à Nantes du 1er au 5 novembre 2023. Et nous y sommes en direct, à nouveau, avec grand plaisir. Une édition placée sous le signe des transmissions, toujours sous le patronage du président Roland Lehoucq, et dans lequel nous avons donc ce plaisir d'enregistrer une nouvelle émission avec nos invités, Annabelle Crémer-Lecointre, bonjour.
Bonjour Dunia, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes enseignante agrégée en sciences de la vie et de la terre, ingénieure de formation et autrice d'ouvrages scientifiques grand public et de jeunesse. À vos côtés, Anne de Fréville, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes auteure, dessinatrice notamment de BD de vulgarisation scientifique Mémoire d'un cétacé dans la collection Octopus des éditions Delcourt et directrice artistique de l'exposition Le racisme d'hier à aujourd'hui. Un sujet hélas encore d'actualité. Et enfin, dernier invité, Thierry Saulnier, bonjour.
Hello.
Vous êtes ingénieur en neurosciences, vulgarisateur multiforme, membre du collectif Explorers et co-créateur de la web-série Méandre.
Tu aimes les sciences et tu cherches un bon prétexte pour aller rencontrer celles et ceux qui la font ? Tu as envie d'écrire et de prendre le micro pour parler de science, de toutes les sciences ? Nous sommes à ta recherche. Le Labo des Savoirs recrute des étudiants et des étudiantes pour renforcer son équipe. Pousse les portes du labo et rejoins-nous.
Annabelle Crémer-Lecointre, dans votre ouvrage « La science à l'épreuve des mauvaises langues », dans le chapitre consacré aux termes « sens et réalité » du mot « science », vous citez les physiciens Alain Sokal et Jean Birkemont sur les significations de ce mot, dont ces définitions qui m'ont marqué. La science est l'ensemble des connaissances disponibles. Mais au fond, est-ce que les sciences ne sont pas qu'un amoncellement de connaissances, mais c'est plutôt tout un système, un écosystème même de pratiques et d'erreurs? C'est quelque chose en fait qui est toujours en mouvement et qui n'est pas juste un ensemble figé dans le temps de connaissances.
Vous avez dit l'essentiel, parce que alors ça c'est une des définitions de la science, c'est un ensemble de connaissances disponibles, mais les autres définitions de la science qu'amène Alain Sokal et Jean Birkemont, c'est que c'est aussi les gens qui la font, cette science, donc c'est une communauté en fait de scientifiques, et c'est aussi une méthode, une démarche. Et enfin, c'est des applications en fait qu'on peut tirer de ces connaissances. Et vous avez raison de rappeler que la science, elle est toujours en mouvement. En fait, le savoir, je vais utiliser un mot qui est peut-être extrême, hein, mais le savoir, il est périssable. Dans le sens où il faut toujours effectivement, il est toujours re-questionné, et c'est comme ça qu'il progresse en fait.
Oui, la science n'est pas qu'une question d'amoncellement de connaissances. Vous l'avez dit, c'est aussi une méthode recouvrant un ensemble de démarches rationnelles permettant de comprendre le monde. Ça fait partie des définitions qui a été beaucoup abordée pendant ces tables rondes aux Utopiales, à savoir que le chemin et la méthode pour parvenir aux résultats scientifiques sont parfois même presque plus importants que le résultat en lui-même.
Moi, en tout cas, c'est un des aspects qui m'intéresse presque le plus, parce que je pense que cette démarche de la science, même s'il y a une diversité hein, de sciences, il y a une méthode, on va dire, qui est aux communes. Après, il y a des démarches, hein, selon qu'on soit en sciences humaines et sociales, ou qu'on soit en mathématiques, ou en biologie, ou en physique, en sciences dites expérimentales. Mais cette démarche, je pense qu'elle peut même nous être utile au quotidien. En fait, pour apprendre à se questionner, à suspendre son jugement, à adopter un esprit critique, à douter. Alors, douter, ça ne veut pas dire douter de tout. Hein, ça veut avoir un doute modéré, on va dire, sur les choses. Mais quand même, voilà, avoir cette approche-là que je trouve intéressante pour appréhender, en fait, les phénomènes autour de nous.
Et pour vous, ça fait partie aussi de l'apprentissage des sciences très large du terme.
Oui, exactement. Et moi, mon premier métier, c'est l'enseignement. Et je trouve un petit peu dommage qu'on, en fait, la transmission de la science passe beaucoup par les résultats, ce qui est très intéressant, hein, mais assez peu par cette démarche. Et moi, c'est ça que j'aime aussi transmettre, en fait, dans mon métier d'enseignante.
Justement, vous êtes enseignante. Quel est aujourd'hui le rôle de l'école et des professeurs dans cet apprentissage, on va dire, du goût des sciences en général, aux enfants notamment?
Ben, c'est un équilibre complexe entre la rigueur, en fait, des savoirs scientifiques qu'il faut transmettre, et puis la curiosité. Il faut en permanence susciter la curiosité, puis parce qu'on a devant soi des élèves qui sont pas forcément tous curieux, il y en a aussi qui sont un peu paresseux, il y en a, et voilà, et il faut trouver toujours d'autres hameçons, hein, pour les attirer vers la science, mais en ne perdant jamais de vue que finalement l'émerveillement, voilà, c'est un hameçon, encore une fois, mais derrière il y a l'explication quand même qui doit venir.
Oui, car il ne faut pas oublier que s'il n'y a pas de constance derrière, s'il n'y a pas quelque chose de bien concret finalement à apprendre, même si ça peut être de l'ordre du merveilleux ou de la curiosité, il y a une espèce de but derrière dans l'apprentissage des sciences. C'est obligé.
Ouais. Ouais, toujours. Et en fait, peut-on parler de science sans parler de science? Ça me semble compliqué. En fait, justement, le titre de cette émission m'a beaucoup questionné. À quel moment, peut-être qu'elle l'a toujours été, la science est devenue si chiante, en fait, qu'on soit obligé d'en parler sans en parler, en fait.
Oui, parce que c'est ce que je disais en introduction, notamment, il y a beaucoup de personnes qui se disent presque allergiques, parfois aux mathématiques, à la physique, à toutes ces disciplines qui ne leur seraient pas accessibles ou auxquelles elles n'auraient presque pas le droit, finalement.
Et puis, ouais, il y a de ça, parce qu'on imagine que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, rigide, figé, alors que c'est complètement l'inverse, hein, pour le coup. Vraiment, moi, j'ai travaillé avec beaucoup de chercheurs et de chercheuses, et l'imagination, la curiosité sont vraiment des moteurs, en fait, en science. Enfin, l'imagination prend une place très, très importante. Et comme c'est quelque chose qui est complètement toujours dynamique, en fait, voilà, il y a justement rien de dogmatique. Et le fait que ça serait pour certains et pas pour d'autres, c'est un peu dommage, mais ça vient aussi, je pense, parfois d'une vision partielle ou déformée de la science que véhiculent certains médias. Et voilà, pour le coup, ça n'aide pas, en fait, à ce qu'on se sente, on soit attiré vers les sciences, alors qu'elles sont faites, en fait, pour tout le monde. Et elle est là au quotidien, vous l'avez rappelé, elle est là tous les jours, en fait, autour de nous, quoi.
Cette image véhiculée dans les médias, est-ce que c'est celle du grand descendant, la science descendante, de ces personnes qui savent et qui nous abreuvent de leurs bonnes paroles, qu'elles soient scientifiques ou non, on va dire?
Je pensais pas tellement à ça, même si c'est vrai, ce côté descendant est toujours un peu problématique, et je pense pas qu'il soit tant véhiculé par les scientifiques, mais c'est l'image qu'on en a en général quand on discute avec un ou une scientifique. Ils sont, voilà, comme vous et moi. Enfin, c'est une, il y a pas de relation de hiérarchie. Non, je pense aussi que c'est lié à la science. Il faut toujours qu'on l'amène avec un scoop médiatique. Il faut toujours que ça soit. Et en fait, c'est pas toujours ça non plus, la science. Enfin, Il y a beaucoup de choses à en dire, mais je crois qu'on la réduit beaucoup, quoi. Et c'est un petit peu dommage.
Et ce n'est pas que une fois par an, au moment des prix Nobel, qu'on va parler de science. Et qui plus est, lorsque l'on parle des prix Nobel, on parle d'une ou deux ou trois personnes, pas plus, alors que c'est souvent des équipes entières de recherche qui participent à un travail de plusieurs années, voire de plusieurs dizaines d'années.
Oui, exactement. Bah, de toute façon, les oubliés, des prix Nobel sont légion. La science, elle est profondément collaborative. Moi, c'est ça que j'aime bien aussi, en fait. Ces échanges permanents. Et effectivement, c'est tout un tas de gens qui sont derrière. Moi, je l'ai vu vraiment quand je suis partie en mission scientifique en Antarctique, et où là, on voit que dans des milieux qui sont un petit peu différents, je ne vais pas dire extrêmes, parce que j'étais quand même sur une base scientifique où il y avait des moyens techniques justement et logistiques qui font qu'on peut y vivre, pas de manière permanente, mais voilà. Et on voit tous ces métiers de l'ombre, les techniciens, les techniciennes, les ingénieurs de recherche. Enfin, c'est vraiment des grosses équipes avec plein de monde derrière, sans quoi la science, en fait, elle se fait pas du tout. Même sur une base scientifique, si vous n'avez pas de plombier, vous ne faites rien du tout.
Et ce sont des personnes et des métiers qui ne sont pas assez mis en avant à vos yeux ?
Oui, exactement. Et il y a une diversité de métiers autour des sciences. Et moi, c'est ça que j'aime bien aussi rendre visible, ces métiers de l'ombre qui sont un soutien fort à la science.
Parce que parler de science, c'est aussi montrer comment la science se construit, comment les connaissances se construisent, au-delà de juste montrer les résultats.
Exactement. Et donc, encore une fois, on revient à ces définitions de Sokal et Bricmont, c'est incarner la science, montrer cette communauté scientifique à l'œuvre, très très large en fait. Et parler de la méthode, des moyens qui sont mis en œuvre.
Alors, à l'école, on va y revenir un instant également. À partir de quel moment est-ce que la transmission des sciences se fait, peut-être via la découverte de musées, d'expériences, avant d'apprendre ce qu'il y a dans le programme? Est-ce que aujourd'hui, en 2023 ou depuis quelques années, il y a vraiment un changement dans la façon dont les sciences peuvent être enseignées à l'école?
Moi, je pense qu'il faut amener les enfants des tout petits, en fait, dans les musées 4-5 ans, c'est très bien, quoi. Pour moi, il y a pas d'âge, parce que l'enfant va retenir ce qu'il va retenir, mais au fond, il faut faire le deuil aussi de l'exhaustivité. Il va mettre les pieds dans un musée, déjà il se sentira peut-être plus tard légitime d'y rentrer, parce qu'il y a aussi toujours cette difficulté de dire, ce que vous disiez au départ, c'est pas fait pour moi, donc je vais pas franchir les portes des musées. Et justement, si on les amène à ça dès le plus jeune âge, en fait, ils ouvriront les portes tout seuls plus tard.
C'est la façon de pénétrer ces lieux, donc c'est une façon de s'approprier également les connaissances et les sciences qui s'y trouvent.
Oui, c'est tout à fait complémentaire en fait de l'enseignement. Il y a plein de manières. Il y a pas ça, la transmission des savoirs ne se résume pas à l'enseignement. Sinon j'écrirais pas des livres aussi justement. Mais il y a plein de façons d'aborder les savoirs. Les musées en font partie, les utopiales en font partie. Voilà.
Et est-ce qu'on pourrait considérer dans ces musées de sciences finalement tous ces objets, toutes ces expériences un petit peu comme des peintures ou des sculptures, des choses qu'on va voir, qu'on va pas tellement forcément comprendre au premier regard, mais qui vont susciter l'émerveillement ou la curiosité, qui vont jalonner les premiers pas vers les sciences de façon plus large?
Exactement, ça va fonctionner comme un hameçon et finalement les petits, c'est très bien de les emmener dès la maternelle, parce que c'est des éponges en fait, et ils garderont ces images fortes qu'on peut mobiliser ensuite, dont on peut parler ensuite, mais c'est important qu'ils aient ces représentations et même qu'est-ce qu'ils en ont compris. Souvent partir de ce qu'ils ont compris de ces images, de ces représentations, c'est aussi déjà un premier pas vers la structuration de la connaissance.
Est-ce qu'on a besoin aussi peut-être dès ce plus jeune âge, et là je pose la question peut-être à tous les trois, parce que j'aimerais bien avoir vos expériences et vos retours, d'un contact avec la science, mais qu'on n'avait pas forcément prévu. On ne savait pas qu'on allait apprendre quelque chose, qu'on allait nous amener dans un musée pour qu'on nous explique ce que c'est que l'évolution humaine ou la physique ou la chimie. Mais vous avez été en contact avec la science sans le savoir finalement. Est-ce que l'un ou l'une de vous trois aurait une expérience, une anecdote à nous raconter? Anne?
Je pourrais raconter mon expérience de rencontre avec la science, parce que du coup moi j'étais à l'école des Beaux-Arts qui se trouve sur le campus de Lumini à Marseille, et sur le même campus en fait il y a la fac de sciences. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais aller frapper à la porte là-bas pour voir qu'est-ce qui se passe. Et je suis rentrée dans la fac de sciences et les chercheurs m'ont ouvert les bras et m'ont dit, mais viens, viens, faisons la rencontre entre l'art et la science. Et ils m'ont emmenée dans une salle où il y avait un énorme microscope où on pouvait voir des cellules au nanomètre près. Et j'ai regardé et j'ai trouvé que c'était infiniment beau, que ça représente, ça faisait penser à un sol lunaire, sauf que c'était pas la lune, c'était pas énorme, c'était tout petit. Et du coup, cette rencontre était vraiment merveilleuse. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que ça ne sort pas de là? Pourquoi est-ce que tout le monde ne voit pas cette image? Et du coup, c'est pour ça que je me suis donné un petit peu cette mission de le retranscrire dans mon art à moi, de faire cet échange entre l'art et la science, parce qu'il faut vraiment le faire, je pense.
Donc c'est vraiment par des images vraiment scientifiques qui n'étaient pas forcément destinées à de la vulgarisation, une exposition, vraiment une image brute.
C'était une cellule, c'était vraiment une cellule.
D'une cellule qui vous a permis un émerveillement et qui vous a donné envie d'en savoir plus.
Tout à fait, vraiment.
C'est des sujets, les images scientifiques qui sont assez sublimées, qui peuvent susciter l'émerveillement, c'est quelque chose que vous connaissez bien
Oui, et justement, ça permet de rebondir, de faire le lien, c'est que peut-être que si on veut parler de science sans parler de science, on peut juste être émerveillé, touché par une image sans forcément apprendre quelque chose par la même occasion. Juste la sensibilité à cette image peut suffire. Et peut-être que ça peut être une nouvelle manière de voir les choses, si on veut casser les codes un peu, de se dire, on n'est pas obligé d'avoir des endroits où on va forcément transmettre de la connaissance, parce que c'est pas facile, et tous les publics ne sont pas forcément là pour ça. Alors que bah, y a des personnes qui vont peut-être juste vouloir apprendre quelque chose en plus, mais sur leur regard du monde, leur vision du monde, etc. Et juste... peut-être que juste une image peut suffire, une musique, je sais pas, à sensibiliser quelqu'un, une personne à de la science. Et donc, en effet, par exemple, nous, avec un des projets qu'on a mené, on a eu cette idée un peu bizarre de se dire, on va prendre des cellules cancéreuses, des images d'embryons, des choses qui parfois font appel à un imaginaire anxiogène pour le grand public, d'aller chercher ces images-là des laboratoires et de les mettre de manière la plus belle possible dans une exposition immersive au Bassin des Lumières à Bordeaux. Et donc même pour les plus jeunes âges, on avait des personnes qui avaient facilement 4-5 ans, qui étaient juste émerveillées par les images, sans du tout comprendre ce qui se passait, mais juste la sensibilité à ça était super importante pour nous. Il suffit que les parents disent après, bah regardez ça, c'est à l'intérieur de toi, et ça suffit, parce que du coup on a déjà un premier contact, qui en plus est facilité parce qu'il n'y a pas la barrière de l'excellence scientifique, de c'est une vulgarisation, c'est une conférence, il faut que j'aille dans un lieu de science. Voilà, on défait toutes les barrières et du coup, on amène les publics, enfin, on amène la science sur des publics, sur des endroits qui n'étaient pas prévus à la base.
C'est une des façons de faire qui se retrouve de plus en plus, d'amener la science vers les gens à des lieux qui ne sont pas forcément prévus pour ça, au lieu de demander justement à des familles, aux enfants, au public scolaire de venir dans les lieux de science. C'est une nouvelle façon de faire?
Ouais, mais surtout, arrêtons d'essayer de faire venir les publics dans les lieux de science, forcément, pour parler de science. Alors évidemment, les utopales, c'est un bon exemple, mais on peut aller plus loin. Nous, on utilise notamment sur le nouveau projet sur lequel qu'on a présenté aujourd'hui aux utopiales, on utilise les codes de l'exploration urbaine, c'est-à-dire qu'on explore des lieux abandonnés. Ça n'a rien à voir avec la science, rien à voir. Mais pourtant, c'est un code. Enfin, ce sont des codes qui marchent bien sur YouTube parce que c'est beau à voir. On a bien ce côté un peu interdit d'aller explorer des lieux abandonnés. Et nous, on s'est dit, on fait ça. Et puis, hop, par derrière, surprise, il y a de la science. Et du coup, on apporte une sensibilité à ce qui se passe dans le cerveau par rapport aux neurosciences, à la peur du noir, comment on se comprend soi-même pour comprendre le monde. Et en fait, les gens se retrouvent à consommer de la science sans forcément savoir que c'est la science. Parfois, ils vont se dire, oh, j'ai juste appris quelque chose sur moi-même sans forcément savoir que ça sort d'un institut de recherche. Et en vrai, c'est cool, ça aussi. Du coup, on rend aussi les sciences cool parce qu'on casse une barrière. Et ça peut aller plus loin. Hein. Je pourrais en parler très longtemps, mais ne serait-ce que porter des vêtements où il y a des trucs de science, je suis en train actuellement de le faire. Les gens, ils apprennent rien avec ma veste. Pourtant, il y a dessus, il y a des cellules, etc. Mais peut-être qu'ils vont trouver ça cool et ils vont se dire bah j'ai rien appris mais au moins je monte de la science, ça rayonne, et on va essayer d'aller toucher du coup plutôt la pop culture, la culture, et peut-être d'autres codes, voilà, pour parler de science.
Thank you. Le son des sciences. Au Labo des Savoirs.
De retour sur le plateau du Labo des Savoirs, en direct du Festival des Utopiales 2023 avec nos invités, où nous parlons des formes possibles pour la transmission des sciences. Et tomber par hasard sur de la science, c'est ce qu'il se passe parfois aux Utopiales pour certains et certaines qui viennent peut-être d'abord pour la science-fiction et les cultures de l'imaginaire et qui, soudainement, se retrouvent face à une exposition sur le racisme. Anne, vous êtes la directrice artistique de cette exposition de l'INSERM. Comment s'est passée cette collaboration ?
Alors, ce n'est pas la première exposition que je fais avec l'INSERM. C'est la deuxième exposition, mais j'ai aussi fait d'autres expériences comme des jeux immersifs. Du coup, je m'occupais de tout ce qui était graphisme. Cette exposition, elle avait un enjeu assez important parce que du coup, il fallait blesser personne. Hein. Parler du racisme, c'est vraiment pas un sujet facile. Mais la précédente expo, c'était parler des vaccins, ce qui n'était pas forcément facile non plus, surtout après le Covid. Et là, la prochaine, elle est encore plus dure parce que c'est sur l'expérimentation animale, donc c'est pire. Donc en fait, cette exposition-là, elle s'est au final plutôt bien passée parce que mon problème principal, c'était de trouver une charte graphique, de trouver une identité visuelle à cette exposition. Et en fait, je ne pouvais utiliser aucune couleur de la gamme classique parce que toutes les couleurs ont une symbolique, surtout quand on parle d'un sujet de société comme le racisme. Donc de toute façon, toutes les couleurs étaient prises par quelque chose, donc j'étais coincée. Donc je me suis rendue chez Sephora et j'ai pris une gamme de poudriers et là j'ai vu, c'est super parce que en fait toutes les couleurs sont représentées, toutes les couleurs de peau sont représentées et donc là à ce moment-là on ne blessera personne. Et donc du coup après ce qui a été plus compliqué c'était de traduire les pensées de chacun parce qu'il y avait donc des historiens, des paléontologues, des généticiens, chacun avait son panneau pour parler du racisme. Et donc voilà, c'était plus la traduction graphique après qui a été complexe. Mais au niveau de la couleur, c'était assez intéressant là-dessus.
Donc vous avez dit que vous avez travaillé avec une équipe de beaucoup de chercheurs et de chercheuses différents. C'était vraiment un sujet transdisciplinaire et un sujet de société. Donc vous avez pu découvrir...
Moi, c'est ce que j'adore dans mon métier. C'est en tout cas ce que je fais depuis 20 ans, cette espèce d'échange entre l'art et la science. Parce que moi, j'apprends énormément. Je m'enrichis je n'ai aucune culture. Enfin, j'ai pas fait des études scientifiques, mais au final, je deviens scientifique à force de travailler avec des chercheurs et c'est merveilleux. J'ai appris énormément de choses, surtout des choses très très amusantes de l'ordre par exemple de la paléontologie, des hommes de Cro-Magnon ou de Néandertal qui ont été trouvés en plein milieu de l'Angleterre et qui après test ADN on se rend compte que ils avaient une peau très noire avec des yeux bleus, c'est-à-dire pas du tout l'image qu'on se fait d'un Anglais classique maintenant. Ça, c'est des choses qui sont très drôles. Et puis, et au final, ce qui est le plus important, c'est l'universalité du résultat, à savoir que on a tous la même origine, on est tous égaux, et c'est un message plutôt de paix et d'amour au final. C'est ça qui me plaît. C'est bien d'aller voir cette expo et de se dire, en final, on vient tous du même endroit. Il y a pas de raison de se battre.
Est-ce que c'était aussi peut-être une façon de réhabiliter, je mets des gros guillemets, la science et les connaissances qui sont parfois utilisées pour justifier justement des actes racistes et de remettre vraiment au centre et au cœur la science qui n'est pas là pour se justifier de ces actes racistes?
Justement, au contraire, je dirais que la science prouve que, de toute façon, il n'y a pas de race, et que ce mot n'a pas lieu d'être, et ça, c'est très très important. C'est notre chaîne ADN, elle est identique. On pourrait même plutôt se poser la question par rapport à l'animal. À ce moment-là, il peut y avoir un problème, parce que on se rapproche vraiment beaucoup, beaucoup du singe. Donc, là, on peut avoir un problème de... Oui, non, on ne peut pas se comparer à l'animal, mais les hommes entre eux, il n'y a aucune... On est exactement pareil. C'est très très important de lire. Même si moi, j'ai pas, moi en tant que traducteur, je ne suis qu'une traductrice des propos, je n'ai pas tout compris, toutes les données scientifiques, parce que parfois ça allait trop loin, même si mon acolyte scientifique y a passé du temps à m'expliquer toutes les corrélations entre chaque chaîne, j'ai bien vu que de toute façon, il n'y avait aucun doute là-dessus. Quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit son origine ethnique, quel que soit l'endroit où on vit sur Terre, la chaîne ADN est identique.
Le Labo des Savoirs. Émission activatrice de synapses.
Juste avant la pause, nous discutions justement des sujets entre science et société et comment on peut amener tout le monde, j'ai envie de dire enfants, adultes et personnes plus âgées à s'intéresser aux sciences sous couvert des sujets de société. Et c'est quelque chose qui vous interpelle particulièrement, Annabelle ?
Oui, qui m'interpelle et qui m'intéresse. Et en même temps aussi, j'y suis confrontée en permanence parce que j'enseigne, moi, la biologie et la géologie. Donc, les sujets un peu chauds, brûlants sur la sexualité, la contraception, le changement climatique, l'évolution humaine. Oui, l'humain est un singe, en fait, c'est un animal, mais voilà. Donc, je suis en première ligne vraiment sur les sujets, enfin, les vaccins, c'est pareil. Enfin, je suis en première ligne sur les sujets un peu chauds. Moi, mon rôle, c'est d'apporter des faits et après dire, voilà, la science, elle amène des faits qui, encore une fois, sont pas des opinions, pas des croyances. On peut discuter de comment se construit un fait scientifique, et ensuite les gens à partir de ça, évidemment c'est eux qui font leur choix. La science elle propose, hein, c'est pas elle qui va décider. Les gens font leur choix à partir de ça, mais mon rôle en fait c'est de dire voilà qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui là-dessus. Donc j'y suis de fait constamment immergée. Donc il faut que je trouve des moyens en fait en permanence. Enfin ça passe beaucoup par le débat, le dialogue. Et puis je sais aussi que bah, les élèves que j'ai devant moi, ils rentrent chez eux le soir et ils sont aussi dans un milieu environnemental avec les opinions, les croyances, la culture qu'on leur a transmise. Et c'est pas évident non plus parce que parfois ils sont dans un conflit un peu de loyauté entre ce que dit l'enseignant, ce que va dire la famille, etc. Donc mais il faut pas occulter ces sujets-là, ils sont très importants justement, faut s'y confronter.
Et on a beaucoup de peut-être mauvaises conceptions ou des idées fausses sur comment est-ce que la science se construit, comment les connaissances se produisent, et c'est ce dont vous parlez dans votre ouvrage, donc la science à l'épreuve des mauvaises langues.
Oui, rien que sur le mot la théorie en fait, une théorie scientifique, les gens ils ont l'impression qu'une théorie c'est une idée. Ils confondent en fait théorie et hypothèse, mais en fait la théorie c'est ce qu'il y a de plus étayé en science. C'est même d'ailleurs le premier cadre de pensée des scientifiques. Donc il y a aussi une clarification sur des mots de vocabulaire à faire. Voilà, qu'est-ce qui se cache derrière les mots. Les mots sont polysémiques, hein, puis chacun veut y trouver ce qu'il a envie d'y trouver. Mais voilà, en science, le mot théorie, il a une signification bien, bien précise, et c'est pas du tout une idée en fait, une théorie.
Est-ce que ça veut dire que les codes des transmissions ne sont pas universels et dépendent vraiment du sens qu'on veut donner aux mots?
Oui, la sémantique joue un rôle important là-dedans. C'est pour ça que dès le départ, quand on aborde une question scientifique, je pense que tout de suite il faut clarifier ces mots-là. On en parlait hier, rien que sur le mot identité. Qu'est-ce que ça veut dire l'identité? L'identité, ça veut dire deux choses identiques, ou alors ça veut dire quelque chose qui est unique. Vous voyez, déjà, si dès le départ on ne précise pas le sens, on va dans des représentations aussi, on a ce risque-là de partir dans des représentations qui sont fausses. Donc il faut aussi être rigoureux dans la manière dont on s'exprime et être très explicite sur les termes qu'on emploie.
Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt utiliser autre chose que des mots, comme des images, comme des sons, comme faire appel à de l'imaginaire, comme faire appel à de la mémoire,
Bien sûr. Faire je pense que c'est extrêmement important, justement, parce que c'est ça qui va amener de la richesse dans le débat, dans le dialogue, et qui va justement montrer quels sont les points de difficulté de compréhension. C'est en passant par tous ces vecteurs-là, en fait, qu'on enrichit le débat et la discussion.
Anne, justement, dans votre exposition, comment est-ce que vous avez trouvé l'équilibre entre les mots et l'image pour faire passer les messages dont vous aviez besoin?
Déjà, dans cette exposition, il faut qu'on rentre par l'image. Parce que le texte est petit, il y en a une certaine quantité, Et il peut faire peur aussi. Mais moi, je pars du principe, enfin, en tout cas dans mon métier, ce qui est très important, j'aime bien citer la phrase de Jean Cocteau qui dit que l'écriture, c'est du dessin organisé. Et en quelque sorte, le dessin, c'est une écriture désorganisée. Mais c'est un tout. Et donc, quand on va commencer à choisir des images, on va écrire, on va dessiner, on va représenter ce qui est écrit en tout petit et qu'on va lire dans un second temps. Donc cet échange-là est primordial.
Est-ce que ça permet également de se représenter des choses plus abstraites qu'on aurait du mal à visualiser, qu'on aurait du mal à imaginer avec des mots, et avec une image, on peut faire passer énormément de messages?
Absolument. Absolument. Moi, je pense que c'est vraiment un outil de transmission essentiel, surtout à notre époque où tout passe par l'image. Il faut s'en servir à bon escient, hein, parce que ça peut aussi transmettre d'autres informations négatives. Mais non, c'est un outil hyper important, et puis justement qui peut attirer les plus jeunes, qui sont pas forcément ouverts à la lecture, mais l'image va les attirer, et ensuite ils vont avoir accès à plus d'informations plus concrètes.
Annabelle, je crois que vous devez nous quitter. Merci beaucoup de votre participation, d'avoir pu répondre à nos questions aujourd'hui.
Merci beaucoup à vous et à tous mes collègues de plateau. C'était une super émission. Merci beaucoup.
Par Yoann Lerbe.
La science dans tous ses états, au Labo des Savoirs.
Alors, on parlait juste avant de la représentation de choses parfois abstraites. Thérence, vous nous parliez d'avoir mis en image des cellules cancéreuses. Et c'est vrai qu'on connaît, hélas, à peu près tous et toutes, ce qu'est le cancer. On a entendu parler de ce que peut être une cellule, mais on ne se représente pas forcément en image ce que ça peut être.
Oui, et je pense qu'on peut même commencer par ne pas comprendre ce qu'on voit. C'est-à-dire que nous, dans l'exposition qu'on a fait, où on a justement montré ces cellules cancéreuses, pendant 10 minutes, on a des gens qui sont immergés à 100%, sans aucun texte, sans aucune voix off, qui sont juste dans un environnement où ils voient des choses sans forcément les comprendre. Donc il y a des cellules qui apparaissent, qui se passent, etc. Et donc, plutôt que de leur donner la connaissance trop vite et de leur dire « Regardez, ça c'est de la science, prenez ça », juste on les laisse vagabonder. Petit à petit, ils vont être de plus en plus frustrés. On va essayer d'avoir une sorte de frustration montante pour que, au bout des 10 premières minutes de l'exposition, on leur donne la réponse avec une partie médiation où on affiche la cellule avec qu'est-ce que c'est derrière. C'est une cellule cancéreuse, c'est un neurone, etc. Et donc là, à ce moment-là, on va avoir des gens qui vont passer d'une posture où ils vont être receveurs de l'information à ils vont être demandeurs. Et donc du coup, bah là, on va pouvoir parler de sujets importants comme le cancer, mais parce que les gens, ils se sont dit, waouh, ça a l'air trop beau, ça, je veux savoir qu'est-ce que c'est. Ah, c'est une cellule cancéreuse. Bah c'est pas grave, je vais plus loin et je continue quoi. Donc en effet, on peut accepter des choses plutôt abstraites. On peut en parler. Et je pense que si on repense l'école, justement, on peut avoir différentes manières d'aborder la connaissance et pas et surtout pas frontalement ou verticalement.
Parce qu'il y a toujours du sens derrière. On apprend finalement ce que c'est qu'une cellule cancéreuse. On apprend de la connaissance, mais à nouveau, on s'en est pas rendu compte.
Exactement. Surtout qu'en plus, si on veut faire le parallèle avec les gens qui ont fait qui ont vraiment vu ces cellules pour la première fois, les chercheurs, eux, ils savent que c'est du cancer qu'ils vont aller chercher. Et pourtant, ils restent des heures devant les microscopes parce qu'ils trouvent ça magnifique. Donc, il y a bien un rapport entre, le côté, complexe du monde, difficulté d'accès à la connaissance, etc. Et d'un côté, la beauté, l'émerveillement et comment les deux peuvent interagir. Et si on comprend ça, parce que on voit bien que les chercheurs, même sur des sujets compliqués, ils restent des heures devant les microscopes, et ben peut-être qu'on peut utiliser ça pour aussi parler de science avec d'autres publics, et du coup faire amener la science sur des nouveaux terrains.
Alors on voit beaucoup ça, notamment en astrophysique et en astronomie, où on a toujours des belles images de comètes, de galaxies, de planètes.
Et on est jaloux hein, de l'astronomie, parce que c'est facile d'intéresser le grand public avec des belles images de galaxies.
Et du coup, est-ce qu'on a besoin de rendre la science belle pour que tout le monde puisse s'y intéresser?
Alors dans ce cas-là, il faut que je parle d'autre chose que juste de biologie, parce que montrer des cellules jolies avec de la microscopie où il y a de la fluorescence, c'est facile, ça va. Nous, avec Méandre, on a essayé de travailler quelque chose d'autre qui est une manière un peu plus brute, c'est-à-dire qu'on va parler de neurosciences, mais appliquées à la psychologie humaine. Et donc du coup, bah là, il n'y a plus de représentation jolie. C'est-à-dire que quand on lit les papiers scientifiques, c'est des mots très compliqués tout de suite. On se dit, waouh, comment on va pouvoir parler de ça? On va parler des croyances, de peur du noir, de la mémoire, mais sur des termes qui sont très compliqués. Donc c'est pour ça que nous, on a été encore plus loin pour déconstruire tout ça, utiliser d'autres codes. Je disais ceux de l'exploration urbaine et de YouTube quelque part. Ou bah par exemple, on va montrer des articles scientifiques. Bon déjà nous on se bat pour que on montre un maximum les sources dans les vidéos qu'on fait, etc. Et là on va tellement plus loin qu'on se dit que les sources on les affiche en gros et on les rend jolies. Comme ça les gens se disent bah j'ai pas le temps de lire la source, j'ai pas le temps de comprendre le titre, mais juste c'est là, c'est intriguant, ça rend le média élégant et ça me fait comprendre que ce que je suis en train de voir en fait c'est de la science et ça a été relu par les scientifiques. Et du coup, voilà, on essaie de nouvelles choses pour rendre attirant des choses qui, sur le papier, ne le sont pas du tout.
Donc, vous avez rendu attirant le fait de chercher des sources scientifiques.
J'espère. Si c'est ça qui s'est passé, c'est génial. En tout cas, ce matin, par exemple, parce qu'on a eu une des représentations ce matin, il y a des gens qui nous ont dit, j'ai juste envie de continuer à découvrir le sujet. Surtout qu'en plus, maintenant, j'ai des petits bouts d'articles scientifiques qui sont apparus si vite que j'ai pas eu le temps de les lire. Donc, les gens, ils se sont juste mis dans cette quête de se dire, je suis frustré, je veux en savoir plus. Parce que du coup, ils ont une posture, non pas de receveur de l'information, mais de demandeur.
C'est tout aussi important de donner envie d'apprendre au-delà de juste donner les connaissances scientifiques toutes prêtes et prêtes à mâcher quasiment.
Ouais, et vraiment, je pense que c'est ce côté, des fois on n'ose pas trop le dire, mais c'est rendre le truc cool. C'est vraiment une leçon cool parce que, je vais prendre un parallèle et tu vas comprendre pourquoi je dis ça, c'est parce que souvent nous scientifiques on se dit, quand il y a le rapport du GIEC qui sort, ou un match de football à côté, une coupe du monde ou une coupe de rugby, le sport prend toute l'attention des gens. Et nous, on s'en plaint, on dit oh là là, mais non, mais regardez-nous, etc. Et en fait, plutôt que se plaindre, on pourrait se dire non, en fait, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui fonctionne comme code là-bas dans le sport. Pourquoi le sport attire plus les foules? Et parce que du coup, juste, c'est plus cool pour les gens. Parce qu'en fait, il y a ce côté communauté, être entre soi. Ils apprennent rien, mais juste ils sont entre eux et ils abordent par exemple des écussons. Et nous, peut-être on se dit, plutôt que de dire le sport, regardez, ils nous prennent, c'est nul, ils prennent toute la place de la science sur les médias, peut-être qu'on pourrait s'inspirer et rendre la science cool, et du coup montrer des belles images, montrer des beaux articles scientifiques, penser à comment on délivre la science, et du coup pour attirer le public avec des nouveaux codes, quoi.
Et des nouveaux codes, on en voit également beaucoup aux Utopiales. Alors, est-ce que vous avez eu dans votre parcours peut-être de ces moments-là de science-fiction, on va dire, c'est une bouteille à la mer que je lance, où vous avez été mis en contact de science à nouveau sans vous en rendre compte, mais je suis obligée de poser la question pour les Utopiales, s'il y a une œuvre de science-fiction qui a pu vous marquer.
Alors moi je dirais que à peu près toutes mes lectures, mais en tout cas dans certaines de mes BD, je m'inspire de George Orwell ou de La Guerre des Mondes, de tous ces livres-là pour justement parler de sujets scientifiques. Il faut toujours inclure de la science-fiction pour pouvoir attirer, en tout cas en bande dessinée, je parle pour mon domaine, sinon on n'aura pas de lecteurs.
Apporter un élément de récit, une histoire.
Oui, j'implique forcément une fiction, un fil narratif qui va être peu probable, mais qui va nous permettre de comprendre notre monde actuel.
Ça permet d'avoir un dialogue plus facile, comme si on parlait la même langue avec le lecteur ou la lectrice.
Tout à fait. Même moi, ça me permet de mieux comprendre, en tout cas, ce que j'écris. Généralement, je me sers de l'anticipation. Et il faut quand même se rendre compte que les chercheurs, et ça, je l'ai découvert en travaillant avec eux, travaillent beaucoup sur l'anticipation. Par exemple, il y a ce continent qui va naître dans 300 millions d'années, qui a déjà un nom, mais il n'existe pas encore. Parce qu'ils ont déduit que la tectonique des plaques allait faire en sorte qu'il y aurait un nouveau continent, qu'il n'y aurait plus de mer Méditerranée, qu'il y aurait un gros trou à la place. Et ça, c'est un élément de fiction totalement génial. En tout cas, pour un écrivain ou pour un auteur de bande dessinée, on est obligé de se servir de ces éléments-là, donc qui sont de la science-fiction, mais qui sont de la science.
Ça fait partie des portes d'entrée possibles pour amener des gens à finalement se poser des questions et à vouloir en découvrir encore plus.
Oui, parce que si on leur parle de leur avenir, souvent la science-fiction c'est le futur. Si on leur parle de leur avenir, ils vont mieux comprendre leur vie actuelle. On parlait du réchauffement climatique. Si on comprend le réchauffement climatique, effectivement on ne veut pas lire le rapport du GIEC parce que ça fait vraiment très peur. Et puis en plus c'est en anglais, c'est fatigant. Donc c'est un peu compliqué. À ce moment, on peut le traduire avec des images, avec une perception du futur de ce que pourrait être le résultat si on ne tient pas compte du rapport du GIEC. Et du coup, là, c'est beaucoup plus compréhensible par tous.
C'est une façon de se resensibiliser à des choses qui nous arrivent, qui sont dans notre propre corps, comme les cellules cancéreuses ou même notre propre cerveau qu'on connaît très mal. Le fait de le représenter d'une autre façon, est-ce que ça permet une espèce de dialogue, de pouvoir rediscuter avec la science et les connaissances pour se réapproprier ces sujets?
Évidemment, parce que, par exemple, ce qui s'est passé ce matin, je vais prendre comme exemple le plus concret possible, c'est que, alors du coup, on est très contents, hein, on a réussi à faire pleurer des gens. Pourtant, on a passé un sujet où il n'y avait rien de très extrême. Hein. On n'a pas parlé de mort, on n'a pas parlé de... non, on n'a pas parlé de choses très dures, on n'a pas parlé de gens qui se séparent ou quoi que ce soit. Juste, on a parlé d'un sujet qui était parler de soi, de peur, d'aventure. Et en fait, c'était juste tellement prenant. Et les gens se sont dit, mais en fait, je crois que ça parle de moi. Ça parle de comment j'interagis avec le monde qui m'entoure, que du coup les gens se sont emparés du sujet et ça les a impactés directement, quoi. Voilà. Et donc du coup, encore une fois, c'est juste parce qu'on change la posture de la relation des gens par rapport aux médias qui regardent et que du coup ça crée des nouvelles dynamiques.
Donc en gros, redire aux gens que la science c'est aussi vous, c'est la descendre de son piédestal et redire à tout le monde c'est aussi pour vous, intéressez-vous à la science.
Je dirais aussi que c'est un moyen pacifique, parce que maintenant on nous envoie beaucoup d'images extrêmement violentes sur les écrans, de tout ce qui va nous arriver ou de tout ce qu'on fait. Et en fait, j'ai vu, ne serait-ce que dans le film Animal de Cyril Dion, où on commence dès le début du film par des dauphins découpés en rondelles qui saignent de partout. Et ne serait-ce que n'importe quel film qui parle de l'urgence climatique et tout, on va nous mettre des images hyper violentes. La science, elle va proposer une alternative, un message insidieux qui peut être esthétique, qui peut être beau et qui est non violent. Moi, je suis vraiment une actrice de la non-violence et je pense que c'est vraiment un des meilleurs moyens de transmission. Parce que qui parle de violence amène la violence. Donc voilà, moi, c'est pour la paix.
Une nouvelle méthode de la transmission des sciences serait de réenchanter les sciences.
Disons qu'en fait c'est une question d'association. Moi, je travaille avec beaucoup d'associations, notamment celle-ci, l'association Miraceti, qui est une équipe de cétologues qui, eux, depuis le départ, ils me disent de toute façon, nous, on est nuls en communication. Ce qu'ils font, c'est génial. Ils comptent les dauphins, ils partent en mer, ils les recensent. Un travail formidable, mais ils sont absolument nuls en communication parce que c'est pas leur job, parce que eux, ce sont des scientifiques, ce sont des chercheurs. Donc s'ils s'associent avec des artistes ou avec un autre domaine, à ce moment-là, ils vont pouvoir réenchanter leur domaine. Et on va découvrir que ce qu'ils font, c'est merveilleux et que tout le monde devrait vouloir faire leur job, en fait. Et que leur job est hyper important.
Dernière question, est-ce que finalement réenchanter les sciences et reparler de merveilleux, ce serait pas se perdre dans les sciences et être amené à un endroit où on ne s'y attend pas?
En effet, je pense que cette notion d'exploration, de l'inattendu, etc., ça redevient une expérience. Si on montre aux gens que c'est cool, en fait, c'est super intéressant. Et moi, j'ai peut-être utilisé une œuvre de science-fiction qui est rarement, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup aux Utopiales. C'est plutôt la musique. On parle beaucoup de films, de livres, etc., mais la musique est aussi importante. Et je vais finir avec peut-être deux exemples. La musique s'appelle Come Together. J'ai oublié, c'est pas celle des Beatles, hein. Non, c'est pas celle-ci. Come Together, où on a un vulgarisateur qui parle de science sur une musique qui est ultra qui nous enivre, et du coup on se retrouve emporté par la musique dans un premier lieu, et puis après on écoute les paroles, on se dit ah ouais, et en fait on est immergé dans un truc qui parle de biodiversité, etc., et on se retrouve à la fin de la musique sur on pensait écouter que de la musique, et puis en fait peut-être qu'on était sensibilisé à quelque chose de plus parce que la personne parle de biodiversité. Et dans le même contexte, il y a eu le duo entre Fakir et Camille Etienne récemment, où pareil, Camille Etienne a posé sa voix sur une musique pour parler des sciences du climat et de l'environnement. Et puis pareil, du coup, on vient parce que c'est une musique. C'est cool parce que c'est Fakir, ça danse, c'est l'électro. Et puis en fait, on apprend quelque chose et on est sensibilisé et on se retrouve quelque part où on ne pensait pas arriver.
C'est Hubert Reeves qui nous a quittés il y a peu, qui disait ça exactement, que franchement, la musique, c'était peut-être même l'art supérieur, l'art ultime, parce que la nature, elle, n'était pas capable de faire quelque chose aussi complexe qu'une musique de Bach, par exemple. Donc je soutiens tout à fait.
Et c'est la fin de cette émission spéciale Utopiale. Merci à nos invités Annabelle Crémer-Lecointre, Anne de Fréville et Terence Saulnier. Une émission réalisée par Mathis Fourré et animée par Dunia Saez, que vous pourrez retrouver sur vos applications de podcast et également sur labodessavoirs.fr et nos réseaux sociaux pour toutes les informations. Merci à vous de nous avoir écoutés en direct des Utopiales 2023 et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
Radio G, 101.5 FM, en DAB+, sur Angers. Radio G. Un point, c'est tout.
They